Radio Okapi.
À la présentation, Blaise Chindani Kambala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée dont voici les titres. Eu égard à la multiplicité des conflits communautaires dans la province de Maïndombe, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité séjourne depuis samedi à Inongo. Jacquemain Chabani est accompagné notamment du caucus des députés nationaux de cette province. S'adressant à la population, Jacquemain Chabani appelle à la paix et au vivre ensemble. Des combats meurtriers en Ituri entre les miliciens de la CODECO et ceux de la CRP, la Convention pour la Révolution Populaire de l'ex-seigneur de guerre Thomas Lubanga. Bilan provisoire, au moins 3 morts, plusieurs blessés et des villages entiers incendiés. Le 28 septembre, le monde entier célèbre la Journée mondiale du tourisme avec comme thème tourisme et transformation durable afin de promouvoir un tourisme responsable, inclusif et respectueux des cultures et des écosystèmes. Pour en parler, nous recevons Marie-Ange Lundu, responsable de l'ASBL Tokende Africa, qui s'occupe du tourisme en RDC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour à tous. Multiplicité de conflits communautaires dans la province de Maïndombe. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Sécurités, séjourne depuis ce samedi à Inongo, chef-lieu de cette province en mission d'itinérance. Jacquemain Chabani est accompagné notamment du caucus des députés nationaux de cette province. Ces élus ont alerté la semaine dernière sur cette situation à la base de plusieurs types de violences. S'adressant à la population, Jacquemain Chabani Louko appelle à la paix et au vivre ensemble. On l'écoute dans cet extrait proposé par Grace Amzati Masanzi.
Nous savons que la province de Maïndombe connaît beaucoup de problèmes humanitaires à cause des naufrages et des conflits. À Kinshasa, nous avons travaillé avec les caucus des députés nationaux de cette province pour que nous puissions organiser un forum de paix ici à Inongo. Ce forum va se focaliser non seulement sur les conflits communautaires, mais aussi sur tous les autres conflits observés dans cette région. C'est notamment le problème des limites entre les territoires ou les groupements et aussi le problème du vivre ensemble. Il y a peu, j'étais au Congo-Brazzaville pour rencontrer nos concitoyens qui y sont réfugiés, précisément dans la localité d'Mpouya, au village Bweba. Beaucoup d'entre eux veulent retourner dans leur milieu d'origine. C'est pourquoi, au cours de ce forum de paix de Maïndombe, nous allons parler des pistes de solutions et préparer leur retour. Il faut que nous puissions mettre fin au conflit dans nos communautés, que ce soit à Kwamout, à Bolobo et partout où il y a des problèmes dans la province, pour que les déplacés internes et ceux qui se sont réfugiés au pays voisin puissent retourner.
Une vive tension a été observée ce samedi au camp militaire Maïto dans la commune du lac Kalemi, dans la province de Tanganyika. D'après des sources locales, des échauffourées ont opposé les militaires aux civils. À la base de cette situation, des militaires ont voulu déguerpir certains habitants qui y ont érigé des maisons. Signalons que l'armée accuse des civils d'occuper illégalement les camps et veut redéfinir les limites de ces domaines qui l'appartient. Pour les civils qui habitent le camp Maïto depuis plusieurs années, ils ont acheté des terrains et ne veulent pas déguerpir. Explication avec Paulin Munanga.
D'après plusieurs habitants du camp Maïto, un officier des FARDC leur a vendu des terrains dans l'enceinte du camp. Ainsi, au fil des années, plusieurs constructions ont poussé dans ce camp militaire. Pour l'armée, il s'agit de constructions illégales et anarchiques. D'après des sources locales, hier, certains militaires ont décidé de déguerpir des occupants du camp. La situation a dégénéré et dans cette confusion, un chef de quartier a été agressé par des militaires, rapporte des sources locales. Cette habitante du camp Maïto exprime son désarroi. Nous sommes des orphelins. Notre père était un militaire. Nous avions acheté cette parcelle chez un capitaine des FARDC. Ce qui est drôle est que cet officier nous a ravi la parcelle. Nous passons la nuit à la belle étoile avec les enfants. Le maire de Kalemie, David Moukeba, et l'élu de la ville, Boniface Kabongo, sont descendus au camp Maïto pour calmer la tension. Il y a quelques jours, une délégation représentant les habitants du camp a été reçue par les commandants de la 22e brigade de réaction rapide des FRDC. Au cours de cette rencontre, il a été décidé notamment la suspension immédiate de tous les travaux de construction dans les camps et l'interdiction formelle de toute vente illicite de parcelles. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, des voleurs armés ont opéré la nuit dernière à l'Institut National de Recherche Agronomique à Yangambi. Selon le directeur de cet établissement public, les malfrats ont emporté le coffre-fort après avoir maîtrisé les policiers de garde. Si on n'y prête pas attention, les investisseurs risquent de se décourager, souligne le professeur Dieu Merci Assoumani, directeur de l'INERA. Le point avec Jacques Moukonkole.
L'alerte est donnée par le directeur de ce centre, le professeur Dieu Merci Assoumani. Il précise que ces hommes armés ont eu un échange de coups de feu nourris avec le policier commis à la garde. Après l'avoir maîtrisé, ils ont pénétré dans les locaux par effraction. Ils ont alors emporté les coffres forts. Le directeur de l'INERA rappelle que cet acte n'est pas isolé, car 3 mois auparavant, un vol similaire a été perpétré à la base vie d'un autre partenaire dans la même cité. Toujours selon lui, ces vols surviennent au moment où les conseils du centre soutenu par les comités locaux de sécurité a décidé de déterrer le reste des câbles électriques de l'UNERA ayant survécu au vol à répétition qui dure depuis plus de 20 ans. Au regard de ces vols récurrents, les directeurs de l'UNERA sollicitent l'intervention des autorités tant militaires que civiles pour la sécurisation de ce site de grande portée scientifique. Sinon, souligne-t-il, les partenaires risquent de se décourager et même les efforts du gouvernement de la République à la relance de ce centre. Jacques Moukonkole, Kisanga. Radio Okapi.
En Ituri, des combats meurtriers ont éclaté samedi entre les miliciens de la CODECO et ceux de la CRP, la Convention pour révolutionnaires populaires de l'ex-seigneur de guerre Thomas Lubanga. Bilan provisoire, au moins 3 morts, plusieurs blessés et des villages entiers incendiés. Des milliers d'habitants ont fui vers la base de la MONUSCO de Djina. Le récit de Jean-Claude Lokidile, rendu dans ses studios par Jean Gandou Kabongo.
Selon des sources locales, tout est parti d'une attaque d'hommes armés basés à Niapala contre une position de la CODECO. Ces derniers ont répliqué violemment, entraînant l'embrasement de plusieurs villages, donc Bala et Walou, où plusieurs maisons d'habitation sont réduites en cendres ce dimanche matin. Dans la foulée, des assaillants venus des villages environnants ont pénétré samedi dans Douba, Chaba, Niapala, Tchaou et Lobi, pillant bétail, volaille et produits agricoles avant d'incendier eux aussi des cases. Des sources militaires de la MONUSCO parle d'un affrontement entre la milice CRP et les FRDC, mais cette version est contestée par les autorités locales qui pointent uniquement la milice CODECO. Jusqu'aux petites heures du matin de ce dimanche, des coups de feu retentissaient encore, obligeant des milliers de civils à se réfugier à Djina auprès de la base onusienne. Les casques bleus y ont assuré la protection. Ce dimanche, 3 civils blessés, dont une fillette de 13 ans et 2 hommes ont été évacués de Djina à Bounia par la MONUSCO. Ils étaient accompagnés de 3 de leurs membres de famille. Un calme précaire règne dans la zone alors qu'il est, mais beaucoup de déplacés hésitent encore à regagner leur village en ruine.
12h08, ce journal se poursuit dans le Grand Katanga. Les travaux sur les axes routiers Lubumbashi-Likasi, Likasi-Kolwezi, Likasi-Kambov, piétine. Constat amer du ministre des Infrastructures et Travaux Publics ce week-end lors d'une visite d'inspection sur ces routes. Raison pour laquelle John Banza insiste sur l'accélération des travaux de réfection de ces voies. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Guidé par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué de ces routes, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a salué le passage progressif en 2x2 voie de la route Likasi rendu possible grâce à la concession gérée par la société de péage au Congo. Au poste de péage de Likasi, John Banza a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement du système et la différenciation des tarifs. Lors de l'étape sur la route Likasi borne 32 qui mène jusqu'à Kolwezi et dont les travaux ont été lancés le 28 juillet publiée dernier par les concessionnaires Vaste Réseau des Services au Congo, le ministre a exprimé le souhait de voir les travaux s'exécuter rapidement et avec qualité requise. La concession accordée par le gouvernement de la République à la Société de gestion des péages du Congo a permis les revêtements complets de cette route depuis 2017 ainsi que son élargissement en 2 fois des voies en 2023. Le ministre John Banza a par ailleurs reçu des explications ainsi que d'autres informations techniques de la part du directeur général de la CGT, ingénieur Nico Nzaounzaou. Il convient de noter que la mise en concession est l'un des modèles de financement les plus sûrs pour les projets routiers à travers le monde.
Interruption du trafic sur la nationale numéro 1 au niveau du territoire de Mbanzangungu et ce sera ce dimanche pendant quelques heures. Et pour cause, les autorités coutumières de ces coins du Congo central veulent comprendre pourquoi tant d'accidents mortels à répétition sur cette voie. C'est pourquoi elles ont décidé de mener des cérémonies coutumières qui seront organisées ce dimanche dans certains endroits de cette route d'intérêt national, comme l'a souligné l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, Willy Makumbani Ndombele. Le point avec vous, Nana Pluriche Mambo.
D'après Willy Makumbani, administrateur des territoires de Mbanzangungu, l'idée derrière l'organisation des cérémonies coutumières sur la nationale numéro 1 à la hauteur de Mbanzangungu n'est pas venue de lui. C'est plutôt une proposition de la notabilité des chefs coutumiers de Mbanzangungu qui attribue une dimension spirituelle à la multiplication des accidents meurtriers entre les deux montagnes encerclant Mbanzangungu. Dans un communiqué rendu public ce samedi, cette autorité territoriale indique que 3 mesures sont prises conformément aux exigences coutumières pour mener à bien cette cérémonie coutumière. C'est notamment la suspension des activités sonores dans toutes les églises situées à proximité de la route nationale de 14h à 16h. La circulation des motards, des véhicules et piétons sur la nationale numéro 1 sera suspendue à partir de l'entrée Melakinsende pour les véhicules en provenance de Kinshasa et au niveau de l'entrée de l'université Nkongo pour ceux en provenance de Matadi. Les tenanciers des bars, bistrots et autres établissements exerçant une activité sonore sont également dans l'obligation d'arrêter la musique et tout instrument sonore pendant ces temps précis. Ces cérémonies se tiendront notamment aux montagnes Kitemoko et du Lombele, où les accidents meurtriers se produisent plusieurs fois. Cette décision a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Les autorités au niveau provincial, qui ne semblent pas être convaincues, sont en train de l'examiner avant de l'approuver, a affirmé Willy Makumbani, administrateur des territoires de Mbanzangungu. Matadi, Nana Pluriche Mambu, Radio Okapi.
Province du Maniema, présentement, une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo, les délégués de la Conférence nationale des producteurs agricoles du Congo et ceux du Fonds international de développement agricole FIDA en mission de supervision à Kindu. Objectif, se rendre compte des différents projets du programme de développement rural inclusif et résilient PADRIR exécuté à travers différents partenaires. Cette tournée a été effectuée dans plusieurs sites de projets maraîchers, des piscicultures, élevage des porcs. Florence Kizalunga pour d'autres détails.
Partout où est passée cette mission, c'était une satisfaction pour la délégation et les bénéficiaires qui voient leurs activités s'améliorer grâce à cet appui. Fatouma Hacha de la Fondation Femmes en Action pour le développement qui fait la culture maraîchère le témoigne.
Fofa fait la culture maraîchère. Notez que Padril a ajouté un de plus chez nous. Il nous avait fait des formations, comment faire des plates-bandes. Parce qu'avant, nous cultivons seulement en vrac. On semait seulement nos choses là en vrac. Mais cette fois-ci, Padril nous a fait des formations. Comment faire des plates-bandes, comment arroser. Maintenant là, il y a une grande différence parce qu'avant, on ne récoltait pas beaucoup, mais depuis que Padre nous a déjà encadré, on récoltait beaucoup.
C'est pareil à la porcherie de l'ONG Solidarité Développement Santé qui a bénéficié de 12 porcs.
Avant Padre, nous faisions l'élevage des porcs, mais ces porcs-là étaient en divagation. Mais pour le moment, après les enseignements, nous avons remercié Padre de nous faire construire d'abord une porcherie. Là où ces bêtes sont logées. Nous demandons à Padri de nous accompagner jusqu'au bout, puisque notre objectif est à ce que nous puissions bannir la malnutrition dans notre contrée ici.
En plus de remerciements, ces bénéficiaires souhaitent que cet appui soit continuel. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Les jeux de hasard comme Winner, Bet.com, les paris football et autres attirent désormais les femmes qui misent, jouent et parfois gagnent gros. Domaine considéré longtemps comme étant essentiellement masculin, auquel certaines femmes s'intéressent aujourd'hui. Quelques-unes y trouvent même une véritable passion. Ces jeux connaissent aujourd'hui une féminisation croissante de la clientèle. Quelle motivation pour ces jeux et quels bénéfices en tirent-elles ? Denis Louquet aussi est intéressé et nous propose ce reportage rendu par Étienne Lissoumbou.
Traditionnellement masculin, l'univers du jeu s'ouvre aux femmes. Elles sont nombreuses, ces femmes, qui envahissent les petites parasols et kiosques installés dans les avenues de Kinshasa pour jouer et tenter leur chance. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, notamment la quête d'un gain facile et rapide pour améliorer les conditions de vie, explique cette dame.
Nous les femmes, nous sommes très intéressées par Winner. C'est là où ça paye. Le travail pour lequel nous payons n'est pas très rentable. Ici, il y a de la facilité. Par rapport au salaire et primes que nous recevons, cela ne me permet pas de couvrir les besoins ménagers et besoins personnels. C'est pourquoi je me suis intéressée et m'accrochée à ce jeu qui paye mieux.
Même si ce n'est pas garanti, certaines femmes voient dans les jeux des hasards un revenu, une satisfaction financière ponctuelle. Gagner même des petites sommes.
Pour moi, je ne perds rien. Je peux jouer avec 2000 francs congolais. Si la chance me sourit ces jours-là, je peux gagner avec mes deux papiers jusque même à 250 000 francs congolais.
Les pertes sont aussi fréquentes et certaines femmes sacrifient même leurs petites économies et rations journalières dans l'espoir de gagner. Le jeu des hasards est un domaine à double tranchant. Les bénéfices ne doivent pas faire oublier les risques, pertes financières et dépendance. À chacun donc son choix.
Actualité internationale.
Au Gabon, les bureaux de vote ont été fermés après une journée électorale durant laquelle plus de 900 000 Gabonais étaient appelés aux urnes pour un double scrutin destiné à élire les futurs députés et élus locaux. Selon la loi gabonaise, ce sont les élus locaux qui éliront à leur tour les maires et les sénateurs. C'était donc un test majeur pour le régime de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu il y a 6 mois pour un mandat de 7 ans.
L'invité.
Ce jour, le monde entier célèbre la Journée mondiale du tourisme avec comme thème « Tourisme et transformation durable » afin de promouvoir un tourisme responsable, inclusif et respectueux des cultures et des écosystèmes. Notre invitée est Marie-Ange Londou, responsable de l'ASBL Token d'Africa qui s'occupe du tourisme en RDC et s'entretient avec Richard Junior Kamunga sur la question de savoir si le tourisme est développé dans notre pays. Suivez.
Marie-Ange Londou, bonjour.
Bonjour, monsieur Richard.
On célèbre ce jour la Journée mondiale du tourisme. Vous avez une ASBL Token d'Afrique qui s'occupe du tourisme en République démocratique du Congo. Peut-on savoir si le tourisme est développé dans notre pays?
Je dirais, à mon avis, pas encore. Nous ne sommes pas encore développés. Pourquoi? Parce que nous avons connu un grand problème, ou nous sommes encore avec ce grand problème de statistiques, parce que l'évolution ou le progrès, le développement se passe aussi avec les statistiques viables de chaque jour pour dire voilà, nous avons, l'année passée, nous avons investi dans tel projet et voilà ce que nous avons reçu comme retour. Et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je continue à le dire, on n'a toujours pas des statistiques fixées sur combien de touristes sont venus l'année passée, quels sont leur destination, ils sont venus de quel pays et ils sont venus faire quoi. Ça, ce sont des informations que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Ça veut dire que même les projets qui sont liés au tourisme, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe réellement, qui fait quoi et à quel niveau nous sommes arrivés.
Tout à l'heure, vous avez parlé des statistiques. Qui devait faire ces statistiques-là?
Les statistiques devaient se faire à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'État. C'est lui notre chef. C'est lui qui contrôle tout. Donc, le ministère du tourisme, l'Office national du tourisme, les secrétariats du tourisme, je ne sais pas, n'importe quelle agence, toute agence liée au tourisme. Mais les aéroports, la RVA par exemple, ce sont des entreprises ou ce sont des agences, des structures publiques qui devaient se mettre à analyser, à faire des statistiques bien analysées par rapport à la demande touristique, combien de personnes viennent pour que nous puissions faire une offre touristique. Le deuxième volet, c'est au niveau du privé. Nous, à notre niveau, nous pouvons le faire, nous ne pouvons pas le faire de manière assez grande. Nous pouvons le faire à notre niveau et nos résultats peuvent toujours impacter et peuvent toujours accompagner le service de l'État. Et la troisième statistique qui est vivable à tout le monde, c'est les consommateurs de ce secteur.
Qu'envisage Token d'Afrique pour développer le tourisme domestique si rien n'est fait au niveau de l'État?
Ah, Token d'Afrique a déjà mis en place un programme qu'on appelle Mon Pays, Mon Héritage. Mon Pays, Mon Héritage n'est rien d'autre qu'un programme pour le développement et la promotion du tourisme local. Mais dans cette démarche, nous avons quand même connu, nous avons connu quelques appuis de l'État, quelques agences de l'État qui nous ont accompagnés, mais ça n'a pas toujours été assez pour nous faire avancer à là où nous voudrions aller. Alors, jusque-là, nous restons dans ce même programme, nous continuons à encourager, nous continuons à motiver, nous continuons à former aussi, parce que je dois mentionner que nous formons les guides touristes qui sont en réalité non seulement des guides touristes, mais que nous formons des futurs ambassadeurs, des ambassadeurs qui vont parler positivement sur le pays, qui vont défendre le pays. Ne peut parler de quelque chose que lorsqu'on a la maîtrise. Ce n'est pas comme ce qu'on voit en politique, les gens viennent, ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais dans un domaine précis comme le tourisme, quelqu'un ne peut défendre que ce qu'il connaît. Et pour qu'il connaisse, il doit avoir de l'information et il doit avoir la formation. Et c'est ce que nous faisons. À ce jour, nous avons plus de 1000 guides que nous avons formés à Kinshasa, à l'est du pays. Nous avons formé à l'île d'Idjoui. On a formé au Congo central. Nous projectons à l'avenir aller dans d'autres villes de la RDC. C'est tout simplement pour continuer à contribuer dans cette démarche de vouloir ramener les gens à aimer le pays, à le connaître et à l'aimer.
C'est comme ça que Token d'Afrique amène les élèves à l'étranger et pas au pays.
Voilà, je reviens encore sur la matière de l'éducation. Le Congo a été formaté, je dis pas formé, mais formaté de manière à ce que, moi j'appelle ça en anglais, on appelle ça le brainwashing. Donc, on a été formaté et éduqué de manière à aimer l'étranger, à aimer à l'extérieur du pays. Vous allez entendre beaucoup de gens dire, ah non, ce pays, c'est mieux qu'on le vende, qu'on distribue l'argent, qu'on se partage de l'argent. Ça, c'est des langages non patriotiques. Alors, lorsqu'on a mis en place le projet Mon Pays, Mon Héritage, l'intention et l'idée était de le faire. Les sorties localement vont être plus accentuées par rapport aux sorties à l'étranger.
Marie-Ange Londo, merci.
Je vous en prie, merci, monsieur.
C'était notre invité Marie-Ange Londo qui s'entretenait avec Richard Junior Kamunga. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal de la mi-journée, coordonnée par Jean Gandou Kabongo, supervisée par Lévin Mbouingavoubou et mise en onde par Billy Landry Betou. Vous pouvez encore suivre ce journal sur toutes nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.